Alors j'ai commencé, vous vous souvenez peut-être, hein, en octobre, une série sur la doctrine de la prospérité. Alors, c'était que le premier épisode, hein, vous allez voir, il y en aura plein d'autres. On avait, donc là, deuxième partie, hein, juste la fois dernière, on avait parlé de ça. J'avais donné donc rapidement, hein, les sources, hein, parce que tout ça, c'est bien sûr, j'ai dû me documenter là-dessus. C'est pas, j'ai pas sorti tout ça de ma petite tête. On avait vu une définition courte, hein, celle qui était donnée dans le document du CNEF, qui était qu'en plus du salut, Jésus promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. Voilà. Avec le salut, j'ai tout ça. C'est comme les antibiotiques, c'est automatique. J'ai pas bien retenu la pub, hein. On avait dit que c'était une doctrine et pas une dénomination, donc on ne peut pas voir, voilà, comme on pourrait voir ADD sur des frontons ou église évangélique. Voilà, on ne va pas retrouver église de la prospérité. C'est rare que ça soit affiché comme ça, hein. Il y en a quelques-uns qui assument bien, mais la plupart du temps, on retrouve cette doctrine-là à des degrés divers finalement dans les églises, et ça peut fuiter même dans notre assemblée en fait. Et après, voilà, il y a des assemblées où le curseur va très très loin dans la doctrine de prospérité. Voilà, il y a tous les niveaux. On a vu qu'à l'origine de cette doctrine, c'était parti du pentecôtisme, hein, même si ça ne reflète pas le pentecôtisme, mais c'est parti de ça. Donc il y a un lien qui est resté un peu historique comme ça, et où le pentecôtisme s'établit bien, et ben la doctrine de prospérité, elle suit aussi. Mais je répète, c'est la doctrine de prospérité, c'est pas identique au pentecôtisme. Il y a des grosses différences, et tous les pentecôtistes ne tombent pas dans la prospérité, bien heureusement. Voilà, alors on avait cité les principaux représentants, hein. De toute façon on y reviendra parce que régulièrement je vais vous citer des gens de ce milieu-là. Et on avait terminé, si je ne me trompe pas, non pas terminé, terminé la partie présentation simplement sur le fait que ces gens sont, alors pour les grands prédicateurs, multimillionnaires, hein, et donc ils ont des moyens assez incroyables de diffuser leur fausse doctrine. On avait cité les églises Hillsong, hein, via la musique essentiellement, et j'avais cité aussi TBN. Trinity Broadcast Network, qui est un réseau de télévision américain, mais qui se diffuse finalement sur partout dans le monde, en fait, dans tous les pays. Voilà, ça peut toucher. Je crois qu'ils sont diffusés dans vraiment tous les pays, sous 146, on n'est pas loin, hein, et donc ils peuvent toucher à peu près toute la planète. J'avais rapidement expliqué en quoi c'est important de combattre cette fausse doctrine-là, même être à notre niveau individuel en fait, de pas se dire bon, ça me concerne pas, je connais pas. On peut rapidement entendre, même dans notre assemblée, même dans notre entourage, des choses où on se dit ah, ça, attention, et prévenir les gens, attention, ça c'est pas du Seigneur en fait, et prier pour les gens qu'on connaît, être capable de leur expliquer en quoi c'est faux, les sortir de là si possible. Après c'est pas nous qui faisons le travail, il faut prier que le Seigneur y touche, mais voilà, on a un intérêt là-dedans aussi. Alors j'avais insisté lourdement. C'est vrai que dans les éléments, certains ajoutent aussi la libération des influences démoniaques. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup de prédicateurs. Donc j'avais dit que c'était un faux évangile, j'avais insisté lourdement là-dessus. Parce qu'on pourrait dire, bah voilà, c'est pas, si quelqu'un va là-dedans, au moins il entend l'évangile, quoi, c'est déjà ça. Et non, il n'entend pas le vrai évangile quand il va là-dedans. Il entend des mensonges. Il entend des mensonges parce qu'on donne à entendre aux gens ce qu'ils veulent entendre. Finalement, il n'y a pas besoin d'être transformé. Hein. Dire aux gens, tu veux être riche, avoir de l'argent, être connu, bah ça, n'importe qui le veut, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. Et on vous donne ça, et vous n'avez pas besoin de changer de vie, en fait. Donc, ce n'est pas le même salut. Ce n'est pas la même foi non plus. On y reviendra longtemps, longuement en détail là-dessus une autre fois. Et l'inconvénient de ça, c'est que du coup, ça remplace le vrai évangile par un faux. Et c'est en ça qu'il faut le combattre, en fait. Parce qu'on est en train de... Bah, des gens qui sont perdus et qui restent perdus. Et qui pensent qu'en entendant ça, voilà, je suis dans une église et je suis sauvé. Et pas du tout. Et donc c'est ça qui est important. Et j'avais terminé, alors pareil, c'est une déformation du salut aussi. On reviendra aussi dessus une autre fois. Le salut, c'est vraiment, je retrouve ma nature divine dans la prospérité. Et vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose qui est un peu bizarre. Hein. Il y a une doctrine des petits dieux. On reviendra aussi là-dessus dans un autre épisode. Voilà, il y a tout un tas de choses, hein, mais c'est faux sur toute la ligne. D'accord ? Et il ne faut pas se dire, quelqu'un qui va là-bas, il va entendre l'évangile, il n'entendra pas le vrai évangile. Et donc, il ne sera pas sauvé. Après, le Seigneur, il est grand, il peut passer au-dessus de ça, hein, bien sûr. Mais je vous avais fait une petite comparaison, hein. La drogue n'est pas bonne, mais bon, le Seigneur est grand, il peut nous sauver même si on est dans la drogue. Oui, bah, on ne va pas se jeter dans la drogue exprès. Voilà, c'est pareil, c'est un poison, c'est la même chose. Voilà. Et c'est une doctrine qui vient du diable. Et la comparaison toute bête, c'est quand Jésus est tenté, qu'est-ce que le diable il fait miroiter ? Bah, de la nourriture, la santé, hein, d'être guéri, et il lui fait miroiter la prospérité, le succès. Voilà, les trois mêmes choses, c'est intéressant. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec la partie richesse, alors sous encore une fois un jour un peu générique, hein, et on verra la fois prochaine en fait les grandes règles de la prospérité. Alors venez pas pour devenir riche, hein, ça marchera pas, mais il y a des lois dans la prospérité, et il faut les connaître pour devenir riche. Si ça vous intéresse, vous venez au prochain épisode. Je fais du teasing. Voilà. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la richesse, elle est dans la Bible, effectivement, mais elle n'est pas dans le sens où on l'entend. D'accord ? D'une manière générale, la doctrine de prospérité, elle prend toutes les bénédictions qui sont accordées à Israël dans l'Ancien Testament et elle l'applique aux gens maintenant. Voilà. Donc, comme Abraham, on lui a promis la richesse, et ben voilà, nous aussi, on hérite de cette bénédiction-là. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham, sur laquelle on reviendra aussi. Hein. Mais voilà, il y a toutes sortes de choses. Voilà, on prend des exemples dans l'Ancien Testament. Et comme ça parle de richesse matérielle, bah regardez, la Bible veut qu'on soit riche. Ouais. Sauf que ça, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas juste prendre tout ce qui est dans l'Ancien Testament et se l'appliquer. Le contexte n'est pas le même. Les gens à qui Dieu s'adresse ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas sortir des versets comme ça. Ça s'appliquait à Israël à ce moment-là. Et donc, il n'y a rien qui nous garantit que ça s'applique à nous maintenant. La chose est différente, d'accord ? Ça, c'est un premier point qui devrait être acquis pour tout le monde, hein, mais voilà, je le répète quand même. Donc, là aussi, dans le Nouveau Testament, on peut dire, ok, on regarde le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, bah, il y a le mot richesse, des fois, il y a le mot bénédiction, des fois, il y a le mot héritage. Voilà, quelqu'un de la prospérité, il va prendre ça et il va le prendre au mot à mot. On a des souhaits de richesse. De bénédiction, on est héritier de Dieu et donc on a tout à notre disposition. Dieu, c'est le compte en banque et puis on tire ce qu'on a besoin. Voilà, la prospérité, ça s'utilise comme ça. Alors, j'ai déjà prêché fin août, hein, si vous voulez y retourner à l'occasion, sur la compréhension spirituelle des choses. J'avais insisté, hein, sur Jésus qui parle, les apôtres qui comprennent quelque chose et Jésus leur dit « Mais vous comprenez rien, vous n'avez pas compris que ce n'était pas de ça que je vous parlais, mais de ça ». Et ça, bah, c'est typique de la prospérité. Ils lisent des choses dans le Nouveau Testament, et puis quand ils voient richesse, tout ça, bah, ils le prennent au pied de la lettre. Or, c'est pas ça qu'a voulu dire Jésus. Alors, on va pas pouvoir prendre tous les exemples aujourd'hui, hein. Je vais en prendre un qu'on va suivre un petit peu, et après, bah, faites vos devoirs à la maison. Hein. Il y a des vacances pour ça, en plus, c'est bien, on aura une semaine de congé, pour ceux qui en ont. Et prenez les autres prières. Là, on va prendre Éphésiens 1 aujourd'hui. On prendra pas que ça, hein, mais en particulier... Et si vous prenez d'autres prières, je vous assure à 100% que ce n'est pas différent d'Éphésiens 1. D'accord ? Mais je ne peux pas... Sinon, on va faire 20 épisodes derrière. Vous allez en avoir marre à la fin. On va prendre Éphésiens 1 aujourd'hui. Donc, le verset 3... Là, les premiers versets, c'est la salutation. Hein. J'aurais pu les lire, mais je suis parti direct sur le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, on pourrait presque s'arrêter là en vrai. Hein. Mais « qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, Éphésiens 1, c'est une prière de Paul pour les Éphésiens. Alors, le début, il n'est pas sous forme d'une prière, mais en fait, on voit que c'est ce que dit Paul et il enchaîne avec une prière. Et les mots qu'il dit avant sa prière... Ils sont cohérents avec la prière, bien sûr. Il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Et donc la bénédiction, elle est spirituelle. Et je pense que la bénédiction qui s'applique aux chrétiens, elle est avant tout spirituelle. Alors j'ai déjà dû le dire la fois dernière, hein, ça ne veut pas dire que Dieu bénit jamais matériellement. Ça peut arriver, mais dans des situations précises, pour des personnes précises. Et ça n'est pas la volonté de Dieu systématique pour le chrétien. Il ne faut pas se dire... Avec le salut, je suis riche, je suis prospère, c'est un acquis, et voilà, je vais l'avoir pour du bon. C'est pas comme ça, en fait. Et même si, voilà, Dieu, je vous dis, Dieu peut faire des exceptions, mais ça reste des exceptions, c'est pas une règle générale. La règle générale, c'est que la bénédiction qui nous attend, elle est spirituelle avant tout. Donc Paul, il va détailler dans les versets qui suivent les bénédictions dont on peut bénéficier maintenant, en fait, hein, il n'y a même pas besoin d'attendre. Mais quand il utilise des mots comme « choisi »,« adopté », »,« délivré », »,« éclairé », »,« acquis », »,« uni à Christ ». Voilà. Il n'y a rien de matériel dans tout ça. Hein. je vais insister tout du long, vous allez le voir, hein, je vais être lourd, mais tant pis. Dans Éphésiens 1, il n'y a absolument rien de matériel. Et ça nous décrit bien ce qui nous attend, ce que Dieu a pour nous. Et on a besoin plus de ces bénédictions-là, j'espère que vous en serez tous convaincus, que des bénédictions matérielles. J'espère que vous en êtes convaincus. Ça va, j'ai quelques hochements de tête quand même. On était ennemis avec Dieu, ça c'est ailleurs, dans Romains, destinés à la perdition. On nous traite, j'allais dire, de brebis égarées. Et grâce à Christ, maintenant, on est béni, on est réconcilié avec Dieu, adopté dans sa famille, pardonné de tous nos péchés. Et le plus important, c'est ça. La première des bénédictions, c'est d'être pardonné de nos péchés et d'être réconcilié avec Dieu, de pouvoir avoir à nouveau une communion avec lui. Le plus important, c'est ça, et le matériel, en fait, ça a très, très, très peu de valeur à côté de ça. Alors, voilà, c'est, on dit ça un peu facilement, et peut-être que voilà, dans l'année prochaine, demain, je vais me retrouver dans le besoin, et me dire, ah mince, j'aurais bien aimé avoir ci, avoir ça, ou j'ai besoin de ci, besoin de ça, mais la principale chose dont j'ai besoin, c'est du salut, et c'est de la communion avec Jésus. Alors, je vous répète cette citation que j'avais déjà donnée la fois dernière, hein, je l'aime bien, de M. Albert Moller, qui est encore vivant, hein, du coup, il est responsable d'un séminaire aux États-Unis, un truc baptiste, je crois. Il dit « Le problème central de l'évangile de la prospérité n'est pas qu'il offre trop, mais qu'il offre trop peu. L'évangile de Jésus-Christ, apporte le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile de la prospérité promet une Ferrari. » Et que le décalage entre les deux. Hein. J'espère bien que ça pèse plus du premier côté que du deuxième à vos yeux. Si vous n'aimez pas les Ferrari, vous mettez une Porsche que vous voulez à côté, hein, une autre marque, il y en a plein, qui valent très très cher. Elles peuvent valoir le prix qu'elles valent, elles ne valent pas la première partie. Hein. Le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. Pour appuyer cette citation, donc, on va continuer dans Éphésiens 1. Donc, alors, j'ai repris finalement les trois versets, hein, mais Paul... apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et donc après on a ce verset que j'ai lu juste avant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est quoi le souhait de Paul pour les Éphésiens ici? Que vous ayez des Ferrari, des belles maisons, soyez plein de thunes? Non, la grâce et la paix vous soient données. Et dans les épîtres de Paul, vous trouverez souvent ça. La grâce et la paix vous soient données. Jamais vous trouverez, j'espère que vous allez acquérir plein de richesses. Jamais vous le retrouverez dans ces entêtes d'épîtres. Absolument jamais. De quelle bénédiction il s'agit? On l'a dit, bénédiction spirituelle. Et c'est pareil, vous ne trouverez pas non plus de bénédiction matérielle dans les épîtres. Vous ne le trouverez pas, vous pouvez le chercher. Versets 4 à 6, alors on va survoler, hein. Du coup je suis désolé, on pourrait s'arrêter une prédication par verset dans Éphésiens 1, mais là on va passer assez rapidement, sinon voilà, encore une fois on fera 30 épisodes et vous me virerez avant la fin. En lui, en Jésus, hein, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Alors, on peut le comprendre de plusieurs manières, hein, ce passage. Ce qui est sûr, ce qui est écrit noir sur blanc ici, c'est qu'on est élu par Dieu, on est choisi par lui. Dieu, il veut nous rendre saints, hein, il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu fait de nous ses enfants d'adoption. Et Dieu nous a accordé sa grâce en Jésus-Christ. Si vous trouvez de la richesse, de la bonne santé, tout ça ici, je ne sais pas comment vous faites. Versets 7 à 10, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Alors là aussi, hein, le verset il est un peu compliqué, mais il n'y a pas de bénédiction de matériel. Qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ? Plein d'argent, un compte en banque bien rempli, non? La rédemption, le fait d'être racheté. le pardon des péchés. Qu'est-ce que Dieu a répandu sur nous? Des billets de banque. Ça fait pleuvoir comme ça. On voit dans certains films, et puis tout le monde qui court pour aller les attraper. Dieu, il a répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et il veut qu'on connaisse le secret pour devenir riche. Ouais, non plus. Il nous dévoile le mystère de sa volonté. Et ça, c'est incroyablement plus grand que le mystère pour devenir riche. Versets 11 à 14. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Alors on retrouve aussi cette idée que c'est pour le louer en fait, c'est pour louer sa gloire, c'est pour sa gloire à lui tout ça. Hein. Si moi je cherche à devenir riche, à être en bonne santé ou je ne sais pas trop quoi d'autre, être plein de succès, être connu, c'est pour ma gloire à moi en fait, hein, pas pour la gloire de Dieu. Et ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est ça officiellement, c'est oui, moi ma richesse, elle glorifie Dieu. Elle les glorifie eux surtout, ça les arrange bien. Alors on est devenu héritier. Ah, ça c'est intéressant du coup. Et c'est quoi notre héritage? Qu'est-ce qu'il a laissé Jésus? Un coffre avec plein de sous dedans? Non. Alors la gloire, c'est la classe quand même Jésus, non? Même pas, hein. De toute façon, vous savez comment il est mort, comment il a fini. Enfin, comment il a fini. Il a une première fin, mais ça a repris après. Il est mort comme un malfrat, sur une croix, détesté de presque tout le monde, et il n'y avait pas un sou. Et notre héritage, il est où du coup? Au ciel. Notre héritage est au ciel et pas sur terre. Et ce n'est pas une invention de chrétiens qui n'arrivent pas à être riches. C'est la recommandation de Jésus lui-même. Ce n'est pas des chrétiens qui se sont dit, bah, nous on n'y arrive pas, tant pis, on va dire que finalement ce n'est pas pour les chrétiens, on va transformer le sens des versets. Rigolez pas, hein, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit quand on entend les prédicateurs de la prospérité, ils disent que ça a été ajouté en fait hein, par des gens qui n'ont pas assez de foi, cette partie de les richesses elles sont au ciel et pour eux on peut en bénéficier, on peut tout récupérer et puis ça augmente le compte en banque. Et c'est des chrétiens pauvres qui n'avaient pas assez de foi qui ont rajouté le fait qu'on ne pouvait pas en bénéficier maintenant, c'est tout. L'argumentation est faible, hein, des fois. Matthieu 6, c'est Jésus lui-même hein, qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Même un compte en banque, hein, il peut être percé et dérobé, il n'y a aucun problème maintenant. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Celui-là, je ne sais pas comment ils peuvent le détourner. En dehors de dire, oui, les chrétiens ont ajouté le fait que si, que ça, mais c'est l'un des versets les plus clairs contre la prospérité, en fait. Hein. C'est arrêter de vous amasser des biens terrestres et penser à ce qui est au ciel. Et au ciel, bien évidemment, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des pièces, ce n'est pas des billets, ce n'est pas des sommes sur un compte en banque, c'est pas je ne sais pas quoi d'autre. Ça n'a aucun sens d'imaginer des billets de banque dans le ciel. Quel est le gage de notre héritage? On l'a lu juste avant. C'est quoi la garantie de notre héritage? Un compte en banque bien garni? Des billets de banque planqués sous notre matelas? Non. Le Saint-Esprit qui a été promis. C'est lui le gage de notre héritage. C'est lui, quand on l'a, c'est la preuve pour nous, il y a encore plus qui nous attend au ciel auprès de Dieu. Et quand on l'a, c'est pas encore une fois un gage de richesse, un gage de richesse spirituelle. Éphésiens 1, versets 15 et 16, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Voilà, là on en arrive à la prière on va dire, officielle de Paul, même si en vrai on comprend bien que ce qui était au-dessus, c'est dans son désir aussi d'apporter ça aux chrétiens. Hein. Mais on en arrive là. Alors, Paul, il va continuer après, il va dire « Seigneur, je te prie pour qu'ils soient jamais malades, qu'ils soient les plus riches de la terre et que ça te glorifie. » Ben non. Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de donc il prie, hein, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est ça la prière de Paul. Dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre cœur, j'insiste, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Ça, il ne faut pas le lire matériellement, encore une fois. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La prière de Paul pour les Éphésiens, c'est la connaissance de Dieu, c'est la sagesse et c'est l'héritage céleste dont il a été question avant, Matthieu 6 en fait. Aucune mention de richesse. Et ce n'est pas parce qu'il y a le mot richesse ici, aucune mention de richesse matérielle, pardon. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot ici, richesse de la gloire. Richesse de la gloire, ce n'est pas encore une fois des sous trébuchants, sonnants. C'est juste l'abondance de la gloire de Dieu, la plénitude de la gloire de son héritage, la complétude. Il y a cet aspect-là, en fait, la richesse de la gloire. Ce n'est pas parce qu'il y a un mot à chaque fois qu'on doit se dire « Ah ouais, c'est de l'argent ». Malheureusement, c'est comme ça que pensent les gens qui prêchent la prospérité. Alors, l'héritage de Christ. Alors, pour un héritage, il faut qu'il y ait un mort. Ça tombe bien, Jésus est mort. Voilà. Et il est mort comment? On l'a dit juste avant, comme un brigand, entouré de deux autres brigands, il n'y avait rien. Rien, pas d'argent. Il a dû envoyer un poisson avec de l'argent dans sa bouche, être pêché par Pierre pour payer ses impôts. Il n'y avait même pas de quoi payer ça. Il n'y avait pas de chez lui. D'accord? Jésus, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il n'y a pas de maison, pas de possession, rien. Rien. Donc son héritage, il ne peut pas être matériel. Il ne peut pas être matériel. Il n'a pas été entouré non plus par les plus brillants. Quand on voit les apôtres, bon, le démarrage est un peu compliqué. Et après, c'est le Saint-Esprit qui les transforme et qui fait d'eux des témoins. Mais maintenant, il est à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et en fait, notre espérance, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose que Christ. Ce n'est pas la gloire matérielle, ce n'est pas la gloire... Le succès, c'est d'être avec le Seigneur, de participer à sa gloire, d'être dans sa présence, de le connaître, de le voir, juste d'être avec lui. C'est ça notre espérance. Éphésiens 1, verset 20, il l'a déployé, alors on était juste avant, la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre espérance, c'est ça, c'est de participer à ça, en fait. Alors, on n'a pas la même autorité que lui, on n'a pas le même pouvoir que lui, mais il nous attend. Il nous a préparé une place, il le dit ailleurs, en Jean 14. Et la mort, c'est juste enfin le moyen d'aller vers lui et d'être avec lui. Alors, quand on parle de cette situation de Jésus, les prédicateurs de la prospérité ont dit « Bah oui, mais Jésus, lui, était pauvre, les apôtres, ils étaient pauvres. Bon, voilà, c'est pas très engageant quand même. » Il y a un verset qui ressort dans leur prédication, en fait, et dans les articles. C'est 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous voyez, Jésus était pauvre, mais lui s'est fait exprès. Et en fait, il est devenu pauvre pour que nous, on soit riches. C'est ça que dit ce verset. Alors, ça, c'est encore un exemple typique de ce que font les prédicateurs de la prospérité. Et au fil des prédications, vous allez voir, ça va peut-être vous agacer à force, mais le réflexe, ça doit tout le temps être la même chose. C'est dans quel contexte c'est écrit. Quels sont les versets avant, quels sont les versets après. Prenez toujours au moins le chapitre. Si vous voulez pas lire tout l'épître, dans l'idéal, c'est mieux ça, mais prenez au moins le chapitre. Et quand on prend les versets qui sont utilisés par la prospérité, qu'on regarde un verset avant, deux versets avant, ou un après, deux après, on a la réponse, en fait. Et on sait en quoi c'est déformé. Donc là, le contexte ici, de 2 Corinthiens 8, c'est des chrétiens qui donnent aux autres. Et Paul, il prend deux exemples. Il prend les églises de la Macédoine. Donc ça, c'est les tout premiers versets de 2 Corinthiens 8. Et il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Le premier exemple que donne Paul, c'est ça. C'est les Macédoniens. Et comment ils étaient, les Macédoniens? Ils étaient riches, comme Crésus? Non, il y a plein des expressions pour parler de richesse. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Ils avaient des galères tout le temps. Ils étaient éprouvés, ce n'était pas juste des petites épreuves, c'était des grandes épreuves et ce n'était pas facile. Et leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ce n'est pas un sou, pareil. De toute façon, pareil, prenez Jésus, les apôtres, les chrétiens, les gens qui sont riches, ils sont rares en fait, ils sont très très rares. Et donc les Macédoniens, ils étaient comme leur sauveur, ils n'avaient pas un sou, ils n'avaient rien, et ils ont réussi à donner quand même à des gens qui avaient plus besoin qu'eux. Et c'est ça que met Paul en évidence ici. Il n'est pas en train de dire, vous allez devenir riche. Au contraire, il dit, même si vous n'avez rien, donnez. Donnez comme les Macédoniens. Donnez comme Jésus, parce que lui, il s'est dépouillé de tout pour que vous ayez quelque chose. C'est ça le sens de 2 Corinthiens 8, en fait. Le sens de 2 Corinthiens 8, ce n'est pas enrichissez-vous, c'est soyez généreux. Et c'est un message qui est un peu différent, en fait. Donc l'exemple d'après, effectivement, c'est Jésus. Qui avait rien du tout et qui a donné sa vie pour nous. Et c'est en ce sens-là, en fait, quand on dit « il s'est fait pauvre pour vous soyez enrichis ». Voilà. La joie des Macédoniens et de Jésus, en vrai, même si Jésus, ça ne nous l'est pas écrit comme ça, elle ne venait pas de leur richesse, elle venait de cette capacité à donner, de ce qu'ils pouvaient donner, et par amour. Et ça, l'amour, on ne le retrouve pas dans la doctrine de prospérité. Parce qu'on donne sur des mécanismes, on donne avec des méthodes, on donne pour récupérer, pour avoir un intérêt, et parce qu'il y a des règles qui font qu'il faut donner. Si vous ne donnez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas assez de foi, et voilà, on vous met le doute comme ça. Alors, est-ce que Jésus, il a vraiment laissé tomber des richesses matérielles pour que nous, on puisse en bénéficier? Alors, oui et non, dans un sens où il était vraiment pauvre, physiquement, matériellement, il n'y avait rien. Mais ce n'est pas ça qu'il a abandonné. Ce n'est pas ça dont il est question en 2 Corinthiens 8. En 2 Corinthiens 8, ce dont il est question, c'est ce qu'on va lire ici en Philippiens, même auteur, Paul, toujours. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est ça, quand il s'est fait pauvre, en fait. Il était Dieu, il était avec Dieu, il avait tout, et il est venu comme un simple homme. Et voilà les mots de Paul, il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, il a paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même. C'est ça, en fait, le Jésus s'est fait pauvre, et pour que vous soyez enrichis, ce n'est pas encore une fois votre compte en banque. La richesse, c'est le salut. Jésus, il a fait tout ça, pas pour vous ayez plein d'argent, il a fait ça pour votre salut, avant tout. Les prédicateurs de la prospérité ne se dépouillent pas. Si vous les regardez, ils sont toujours bien habillés, ils ont une belle maison. J'écoutais encore, on discutait avec Myriam hier, et à nous parler du témoignage de Kosti Hinn, le neveu de Benny Hinn. Paul y en a déjà parlé plusieurs fois. Et quand il dit son témoignage, il dit « Mais j'avais une villa là-bas, à des millions, j'avais cette voiture, et puis celle-là, mais celle que je préférais, c'était encore celle-là. Et j'avais ça. » Et voilà, le dépouillement, il n'y est pas. Regardez Benny Hinn, regardez, de toute façon, tous ceux dont on parle ici, ils ne se dépouillent pas. Ils s'enrichissent, ils s'en mettent plein les poches sur le dos des autres. Ça, c'est le comportement inverse de Jésus. C'est le comportement inverse des Macédoniens. Ce n'est pas de la générosité. Alors, on peut pas utiliser donc ce verset-là pour justifier notre prospérité à nous, notre bénédiction matérielle, en disant « Jésus était pauvre, donc moi, je suis riche, voilà. » On pourrait se dire « ça, c'était Jésus, c'était un cas un peu différent. » Mais les apôtres, ils ont vécu la même situation que Jésus. Je l'ai déjà parlé un petit peu, mais je vous le refais en très rapide. Nulle part on nous dit qu'ils étaient riches. Alors il y en a peut-être quelques-uns dans l'eau qui avaient de quoi subvenir, mais souvent ils dépensaient leur argent pour les autres quand c'était comme ça. Ils l'apportaient dans la communauté. Alors je vous en ai déjà parlé dans une prédication, mais je ne sais plus quand. j'avais listé un peu les apôtres, comment ils avaient tourné, mal tourné du coup. Hein. On a Étienne, donc, qui meurt martyr, ça c'est, on nous dit c'est le premier martyr, hein, sous les coups des pierres des Juifs. L'apôtre Pierre, il meurt à Rome, crucifié. A priori la tête à l'envers, parce qu'il n'était pas digne de mourir comme son sauveur. L'apôtre Paul, il est mort, probablement condamné à la décapitation par Néron. En tout cas, il est mort à Rome, tué par un des empereurs. L'apôtre Jacques, fils de Zébédée, on appelle Jacques le Majeur hein, dans le The Chosen, il s'est fait tuer par l'épée par Hérode, on nous en parle en acte 12. L'apôtre Jean, fils de Zébédée aussi, il est envoyé en exil sur l'île de Patmos. C'est la gloire, c'est le succès, tout ça. Pas trop, hein. Et si on prend derrière les pères de l'Église, il y en a combien qui sont morts avec rien? Rien. Et martyrs, bien souvent. Combien de chrétiens juste pas connus? On connaît même pas le nom, on sait pas qu'ils ont existé. Qui sont morts sur des bûchers, avec rien, pareil. C'est une règle quasi générale, en fait. Hein. C'est pas très joyeux pour nous, mais c'est comme ça, l'Évangile ne rend pas riche. Il rend riche spirituellement, il rend pas riche matériellement. Faut préciser, en fait, le matériellement ou spirituellement. On va terminer avec un cas qui est très très bien documenté dans la parole, qui est celui de l'apôtre Paul. Alors, il décrit sa situation, hein. Et il résume, alors on va commencer par 2 Corinthiens, c'est un gros morceau hein, celui-là, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, où il fait un résumé de son succès, des richesses qu'il a accumulées, de la bonne santé qu'il a toujours eue. Voilà, on va lire ça ensemble. Donc il parle de faux apôtres, en fait, hein, qui disent « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague, ou qui exagère. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus. » Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, au bord de la mort. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Souvent, les prédicateurs de la prospérité font culpabiliser ceux qui ne sont pas assez riches ou pas assez en bonne santé, en leur disant « c'est parce que vous manquez de foi, parce que vous ne donnez pas assez. Si vous donneriez plus, le Seigneur il vous rendrait plus. » Est-ce qu'ils oseraient dire ça à l'apôtre Paul? Ça, c'est du pédigré derrière, de service pour le Seigneur. Alors, on l'a lu dans une étude biblique en septembre, j'étais pile en train de préparer ça à cette époque-là, les qualificatifs aussi que donne l'apôtre Paul pour être apôtre. Ça, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13. « Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes. » Des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Il est beau le succès, hein ? Le succès que donne l'Évangile. Et là encore, c'est pas juste la persécution, il parle de « il a faim, il a froid, il souffre la nudité ». Voilà. Je pense que tout ce que prêche la prospérité, il est à l'inverse de tout ça, Paul, dans sa vie. Il a souffert tout ça, et il y a quelque chose qui est marquant, c'est qu'il ne s'en plaint pas, en fait. Hein. Il le donne comme un constat, et il n'a pas honte non plus de le dire. Parce que, voilà, si quelqu'un qui fait partie des églises de la prospérité, il n'oserait pas dire, bah, moi, j'ai eu faim, j'ai pas eu assez, ou il m'a manqué de ci, il m'a manqué de ça. Bah non, parce qu'on va dire, vous manquez de foi. Paul, c'est pas un problème. Il dit, voilà, moi, j'ai souffert ça, ça, ça et ça. Et c'est pas grave, c'est pour la gloire de Christ. C'est pas ça le plus important. Petite pique facile aussi, nous travaillons de nos mains, de nos propres mains. Ces grands prédicateurs-là, ils ne travaillent pas. D'accord. Ils font des études publiques, des choses comme ça, avec plein de gens autour qui les écoutent, qui les applaudissent, qui donnent beaucoup d'argent. Mais ils ne travaillent pas, ils ont des équipes, et des équipes qui travaillent, eux, dur, et qui ne sont pas payées cher. Parce que le but, c'est qu'on économise de l'argent pour le Seigneur, vous comprenez bien. On est loin, vraiment, vraiment très loin de l'exemple qui est donné dans la parole, hein, quand on voit les vies de ces gens-là. Je termine avec l'épître aux Philippiens. Philippiens 3, versets 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'évangile. Ça, c'était son CV. La grande classe au démarrage avant de connaître le Seigneur. Et une fois qu'il s'est tourné vers le Seigneur, finalement, il dit « irréprochable à l'égard de la justice de la loi ». Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je regarde toutes choses, je vous relis juste la dernière partie, hein, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Les richesses et Christ, c'est très difficilement compatible. Jésus dit lui-même, hein, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un cadeau d'être riche. Je ne peux pas vous en témoigner, mais... Mais la Bible nous le dit, elle nous dit c'est compliqué. Et le plus simple, c'est d'avoir juste ce qu'il faut, pas en dessous pour pas se plaindre auprès du Seigneur et pas trop de peur qu'on oublie le Seigneur. Je regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Ça, c'est complètement incompatible avec la doctrine de la prospérité. Ça va à l'opposé. Dire bah, tout ce qui pouvait faire ma classe, tout ce qui pouvait faire mon intelligence, mon succès, tout ça, je le considère comme de la boue. C'est du déchet, j'en ai pas besoin, et au contraire, je veux juste gagner Christ, et donc je suis obligé de laisser tout ça. Quand on voit la vie de Paul, dans les épîtres, dans les actes, on sait que c'est pas juste des belles paroles. Il l'a vécu tout ça. On a lu tout à l'heure, hein, les passages dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il n'est pas en train de faire un discours aux gens. Malheureusement, moi, je peux pas. Je vous le fais de manière peut-être un peu théorique. Hein, je ne vis pas toutes les galères du monde. Je suis bien content de ne pas les vivre encore. Mais Paul, il pouvait lister tout ça, dire tout ça, je l'ai vécu et je peux vous en témoigner. Et ce n'est pas ça le plus important. Il le vivait tout ça. Et donc, c'est important de suivre les gens dont l'enseignement suit ce qu'ils vivent. Paul, il vit ça, il l'enseigne. Et c'est cohérent ensemble. Les prédicateurs de la prospérité, ils vous prêchent des choses et ils vivent autre chose. Voilà, je termine juste. Les richesses promises par le Nouveau Testament, elles sont toutes spirituelles. Vous ne trouverez pas de bénédiction matérielle. Alors nous, on a vu ça au travers de la prière de Paul aux Éphésiens, hein, Éphésiens 1 aujourd'hui. Mais si vous prenez le Notre Père en Matthieu 6, la prière qu'on appelle sacerdotale hein, en Jean 15, la prière des premiers disciples en Acte 4, les prières de Paul aux Philippiens, Philippiens 1, versets 9 à 11, aux Colossiens, Colossiens 1, versets 9 à 14. Aucune de ces prières-là ne va contredire ce qu'on a vu ce matin. Aucune. Dans aucune de ces prières, on trouvera la demande à Dieu de « bénis-moi matériellement, donne-moi de la richesse, donne-moi la bonne santé ». Toutes ces prières-là, elles ont un but spirituel avant tout. Et donc notre but à nous, il doit être le même, il doit être spirituel. Quand on prie à Dieu, alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier pour que le Seigneur il vous guérisse, il guérit aussi. Hein. On reviendra aussi sur la guérison, tout ça plus tard, dans l'épisode 42, je crois. Hein. Mais l'objectif de notre vie, il est spirituel avant tout. Bien sûr, il y a des fois, on est en galère avec telle ou telle chose, et on prie le Seigneur, et il répond. Il répond. Mais l'objectif de notre vie, ça ne peut pas être les bénédictions matérielles. On doit vraiment s'attacher à ce qui est au ciel, ce qui est spirituel, et le reste c'est du détail. Alors du détail qui des fois nous embrouille pas mal, nous complique la vie, mais c'est du détail par rapport à ça. Paul il a donné l'exemple de sa vie, il a suivi l'exemple de Christ lui-même, hein, et il y a des gens qui ont suivi ces exemples-là, et ça forme la chaîne de chrétiens du début là jusqu'à maintenant. Et nous, est-ce qu'on est prêt à suivre cet exemple-là ? À dire, je renonce à tout, je le regarde comme de la boue pour gagner Christ. S'il faut mettre Christ, il faut mettre absolument tout le reste dans la balance. Qu'est-ce qui a le plus de poids pour nous ? Les richesses qui nous sont promises, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont éternelles. On a eu tout à l'heure Matthieu 6, hein, ça va pourrir, ça va être volé, c'est, voilà, c'est, ça a une fin en fait tout ça. Et ce que Dieu nous promet, ça n'a pas de fin. On en bénéficie partiellement maintenant, et on continuera à en bénéficier de manière incroyablement plus grande, plus complète, quand on sera avec lui. Mais pour ça, il faut le viser en fait. Il faut dire, voilà, c'est mon objectif Seigneur, d'être avec toi, de te connaître, de grandir en toi, de grandir dans ta connaissance. Si mon objectif, c'est la bonne santé, les richesses, le succès, on se trompe, on va mettre en place les mauvaises choses dans notre vie et on va s'éloigner du Seigneur. Les deux ne vont pas dans la même direction. Hébreux 10, versets 34 à 35. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Les prédicateurs de la prospérité vont lire que la dernière partie. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Voilà, encore une fois. Mais si on regarde le verset d'avant, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous voyez, il suffit de prendre le verset juste avant pour bien comprendre que ce n'est pas de ça dont il est question. L'argent ne fait malheureusement pas partie de ces biens qui durent toujours. Ça aura une fin et on ne l'emporte pas avec nous dans la tombe. Voilà, notre grande rémunération, elle est spirituelle et elle dure toujours. Amen. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu as pour nous. Seigneur, c'est bien plus riche, de bien plus grande valeur que ce qu'on peut nous faire miroiter dans le monde. Et Seigneur, on te prie qu'on ait les yeux tournés vers ça. Seigneur, qu'on ne soit pas accaparé par les choses de ce monde, par les biens matériels. Seigneur, on te prie que tu nous donnes juste assez, Seigneur, pour avoir de quoi pourvoir à nos besoins, ne pas râler contre toi à cause de notre misère et ne pas t'oublier à cause de notre richesse. Seigneur, merci de ce que tu es bon envers nous. Tu pourvois à nos besoins, Seigneur, pas à nos désirs, pas à nos envies, mais à nos besoins. Et Seigneur, tu es fidèle dans toutes ces choses. Seigneur, je te prie que pour chacun d'entre nous, nous puissions avoir ces bénédictions spirituelles en objectif, Seigneur, et pas juste ces bénédictions, mais toi, Seigneur, qui nous les donne. Seigneur, le plus important, c'est toi, même au-delà de ces bénédictions spirituelles. Prions qu'on ait les yeux fixés vers toi, Seigneur, tout au long de notre vie, et que, Seigneur, quand tu reviens ou quand nous te rejoignons, Seigneur, nous n'ayons pas de mauvaises surprises, nous puissions bénéficier pleinement de ta présence, Seigneur. Amen.